Bienvenue ce matin. Nous continuons dans notre étude du long sermon de Moïse. Nous prenons petit bout par petit bout. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir les chapitres 8 et 9. Vous vous souvenez du souci de Moïse lorsqu'il s'adresse à cette nouvelle génération en Israël. C'est de les exhorter à vivre selon les commandements de Dieu. Nous avons vu la semaine dernière qu'en fait, il les invite à rester dans l'amour de Dieu. Par-delà les siècles, il s'adresse à nous. Il nous dit « Demeurez dans l'amour de Dieu. » C'est bien de venir aux études bibliques. Et je vous invite à vous joindre si vous ne participez pas encore. Et c'est encore mieux de mettre en pratique. C'est facile de dire « Oui, je t'aime, oui, je veux te servir. » Mais c'est dans le désert que les choses deviennent réelles. Peut-être que parmi vous aujourd'hui, il y en a qui ont l'impression d'être dans cette traversée du désert. Les choses ne sont pas faciles. Il y a une vague promesse, mais vous ne la voyez pas venir. Aujourd'hui, nous allons voir qu'avec Dieu, le passé va nous donner confiance pour l'avenir. Nous allons voir que lorsque nous rappelons ce qu'il a déjà fait pour nous, alors l'ennemi ne peut pas nous paralyser par la peur. Parce que nous savons que Dieu est fidèle. Nous savons que le travail qu'il a commencé en nous, il va l'achever. Et donc, nous allons commencer à lire Deutéronome 8. Et il commence, verset 1, par ce qui est pratiquement un leitmotiv, une répétition de son propos. C'est un peu comme le thème d'une symphonie musicale qui de temps en temps est jouée au violon, de temps en temps à la flûte, de temps en temps au saxo. Et encore une fois, s'il le répète avec autant d'intensité, c'est parce qu'il a ce cœur de pasteur. Il nous dit « Vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. » Dieu veut que veut nous bénir. Il a commencé une œuvre, il nous donne des instructions, pas pour nous rendre la vie impossible, pour nous donner la vie abondante. Il leur dit, tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, verset 2, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier, de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observais ses commandements, oui ou non. Se souvenir de quoi? Est-ce qu'il veut que je me souvienne de mon passé sans lui? De mes péchés? Ou de mes soi-disant succès que j'accomplissais, entre guillemets, dans ma force? Non, du chemin que lui nous a fait faire. « regarder son passé pour se rappeler, peut-être même peut-être avec un petit regret. On se rappelle des poireaux d'Égypte. C'était le péché, mais il y avait des bons moments. Non, si on regarde le passé sans lui, c'est une mauvaise sorte d'introspection. Ça peut nous conduire à l'autosatisfaction. Oui, finalement, je suis pas mal. Même sans Dieu, j'étais quelqu'un de sur qui on pouvait compter. J'étais un ami fidèle. Et quand on se souvient ainsi de son passé, ça conduit à quoi? À la préoccupation du moi. À l'égoïsme. C'est le contraire de l'humilité, c'est le contraire du souci de l'autre. Non, il veut que nous nous souvenions de tout le chemin qu'il nous a fait parcourir. Paul, dans Philippiens, nous disait, Philippiens 3, 13, qu'il n'estimait pas avoir encore saisi le prix, mais qu'il faisait une seule chose, il oubliait ce qui était en arrière et il tendait vers ce qui était en avant. Il courait vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Dans un autre passage, il dit qu'il parle de ses persécutions, mais il va dire en conclusion, le Seigneur m'a délivré de toutes. Nous aussi, lorsque nous donnons un témoignage, n'insistons pas sur notre vie sans Dieu. La vie sans Dieu, Paul dit très crûment qu'il la considère comme de la crotte. Scubala, c'est dans le texte. Voilà, souvent on a un peu gêné, donc on dit c'est... Non, non, il est très, très cru, il dit c'était de là. Le Seigneur nous a délivrés. Il délivre. Il va continuer de nous délivrer. Il est intéressant de voir que Moïse nous dit qu'il a, il nous avait fait du chemin dans le désert pour nous humilier, pour nous éprouver et pour reconnaître ce qu'il y avait dans notre cœur. Jérémie le disait déjà, le cœur est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître? Il est incurable. Wicked. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à cette conclusion? Que votre cœur était tortueux? Il y avait beaucoup de mauvaises choses dans votre cœur. Tant qu'on n'y arrive pas, tant qu'on ne réalise pas, alors on ne peut pas connaître Dieu vraiment. On ne peut pas comprendre la grandeur de son amour pour des êtres si infâmes. Le cœur est tortueux par-dessus tout, mais par les épreuves, Dieu nous apprend à connaître ce qui est dans notre cœur. Jésus sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Dieu sait ce qui est dans nos cœurs. Nous avons tendance à ne pas savoir vraiment ce qui est dans nos cœurs. Je crois que Dieu révèle progressivement pas nous écraser, nous accabler. Si vous trouvez une éponge sur votre lavabo, sur votre évier de cuisine, et qu'il y ait du liquide dans cette éponge, comment est-ce que vous allez savoir quel est le liquide à l'intérieur? Il va falloir exercer une pression sur l'éponge. Et là, le Coca-Cola va dégouliner. Ou le lait moisi, dit-on. Le lait. Il faut une pression sur nous pour qu'on voit enfin ce qu'il y a dans notre cœur. Cette semaine, le Seigneur a fait le coup de l'éponge avec moi. J'ai eu beaucoup de choses à faire. Des dates à respecter. En plus du reste. Et si je pensais peut-être avoir grandi dans la patience, dans l'amour, dans la souplesse, et Tony au sourire. Il m'a bien serré. Et j'ai vu des choses pas belles. L'impatience envers peut-être certains d'entre vous. Ou d'autres. Peut-être que vous n'avez rien vu, tant mieux pour vous. Mais le Seigneur m'a montré ces choses. Il me dit, regarde ce qui reste encore dans ton cœur. Sébastien va bientôt passer le brevet. Le BEPC. Et ce BEPC, il sert à rien. Du moins, c'est ce que dit Sébastien. Parce qu'il est exigé pour rien du tout. Je ne crois plus qu'il soit considéré comme un diplôme valable pour entrer dans l'administration, peut-être. Mais cet examen, il n'est pas destiné à détruire Sébastien. Cet examen est destiné à le fortifier. À le préparer aux vrais examens, à lui mettre un peu la pression, des révisions à faire, limiter un peu le skateboard. C'est pas pour le détruire, c'est pour le fortifier. Et de la même façon, les épreuves de Dieu sont pas destinées à nous détruire. Il veut nous fortifier. Il veut nous faire grandir en caractère, en maturité. La maturité, c'est pas seulement en ajoutant des années. C'est en ayant une relation plus profonde avec Christ. Nous ayons des attitudes moins extrêmes. Pour que nous soyons plus souples. Nous ayons plus de compassion, de patience. D'amour pour les autres. Et la question c'est, est-ce que nous apprenons nos leçons rapidement? Ou est-ce qu'il faut un premier brevet, un deuxième et un troisième? Ça, c'est un enseignement qu'on retrouve dans toute la Bible. Jacques disait même dans Jacques 1 de considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves qu'on peut rencontrer. Alors l'idée, c'est pas d'être masochiste, et de dire oh, plus je souffre et plus je suis content. Non, il ajoute dans Jacques 1, 2 et 3, la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Et la patience va accomplir une œuvre parfaite afin que nous soyons parfaits et accomplis et qu'il ne nous manque rien. Paul dans Romains disait, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation, c'est-à-dire l'épreuve pénible, produit la persévérance. La persévérance produit une fidélité éprouvée, c'est Romains 5, 3. Et la fidélité éprouvée l'espérance. Et l'espérance, elle ne peut pas tromper parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Si vous traversez une période difficile, vous avez le choix de vous laisser décourager par l'ennemi, dire tout est perdu, Dieu ne m'aime pas, plus vous éloignez de lui, ne plus le prier, ne plus lire sa parole, ne plus participer à la communion fraternelle. Et devinez qui aura gagné alors. C'est l'ennemi. Par contre, vous avez le choix de réaliser qu'en fait, ces épreuves, ces choses que vous souhaiteriez ne pas avoir, elles ont été, comme disait un auteur, filtrées par les mains d'amour de Dieu. Encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à vivre en réalité. Il est important de réaliser que nous avons le choix. De voir que l'épreuve, elle va conduire à quelque chose de glorieux. Paul disait que les épreuves présentes, elles n'étaient rien comparées au poids de gloire auquel elles allaient conduire. Verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Une chose dont Dieu a horreur, c'est pas l'avortement, même s'il l'a en horreur. Ce n'est pas l'homosexualité, c'est l'orgueil. L'orgueil qui a été à la source de la rébellion de Satan. Et si nous n'avons pas cette humilité devant Dieu, devant les hommes, alors Dieu va continuer les épreuves. On voit souvent les grands de ce monde humiliés. Je crois que c'est Dieu qui est à l'œuvre pour leur montrer qu'ils ne sont rien sans lui. Même s'ils ne veulent pas le reconnaître. Jésus avait dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Dans Jean, il est dit que la vraie manne, la manne que les Israélites recevaient dans le désert, c'était une illustration de Jésus qui est la manne envoyée par Dieu. Et donc, il faut avoir cette faim de Dieu, cette faim de justice. Sans cette faim, nous n'allons pas recevoir. Et la faim, elle ne vient pas quand tout va bien, quand on est repu. La faim vient quand on est dans la difficulté, dans le désert. quand on est dans l'épreuve. De temps en temps, le Seigneur doit remettre un peu la pression. Parce que nous sommes un peu éloignés de cette humilité, éloignés de cette dépendance. Et ce verset 3, c'est la deuxième partie, c'est le verset que Jésus a utilisé pour combattre l'ennemi dans le désert. Dans Matthieu 4 et Luc 4, ce verset est repris par Jésus qui dit à Satan qui veut le tenter. Vous vous souvenez que Satan, Jésus avait jeûné pendant 40 jours et Satan lui disait, mais tu peux dire à ces pierres de se transformer en belle ciabatta, en belle miche de pain bien croustillante. Ciabatta, c'est le mot italien, il ne parlait pas en italien. Et donc, il a dit, il est écrit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a dit qu'en fait, Jésus avait cité le Deutéronome plus qu'aucun autre livre de la Bible, même que les psaumes. Et quelque part, il n'est pas étonnant qu'il ait utilisé ce verset dans le fait que ces circonstances étaient un peu similaires. Il était dans le désert, lui aussi. Il était tenté. Et donc, Jésus, lui, a utilisé la parole de Dieu. Il est écrit. Et à l'époque de Jésus, Israël avait complètement et lamentablement échoué. Ils avaient complètement désobéi les commandements de Dieu. Vous vous souvenez que pendant près de 400 ans, il n'y avait plus de prophètes. Il a fallu attendre Jean-Baptiste. Mais Jésus, s'appuyant seulement sur la parole, avait décidé d'obéir à Dieu. Et là, il y a une application pour nous. Nous ne sommes pas Jésus au sens que nous ne sommes pas le Fils de Dieu. Mais nous aussi, nous avons le choix. Nous vivons dans une société qui s'enfonce dans le péché, dans l'immoralité. Cette semaine, le phénomène de société en France, pas les sectes, c'est Love Story. Les Français n'ont pas besoin de Love Story. Ils ont besoin d'entendre la Love Story de Jésus, de Dieu. L'immoralité nous entoure de partout. Les publicités, la musique, les films, la télévision, le gouvernement qui fait le prude en matière de religion, prude, he acts prudishly, qui crie au scandale dès qu'il y a des bruits de secte. Tout ce qui n'est pas catholique, c'est un scandale. Mais je voyais des députés, des membres du gouvernement interviewés sur cette émission de télévision. Et la réaction en général, c'est le sourire, l'œil coquin, amused eye. Mais aucune critique ouverte. Du moins pour l'instant, j'ai entendu très peu de voix s'opposant. Il y a les catholiques qui ont dit quelque chose contre cette émission. Mais imaginez seulement un instant qu'on prenne un groupe de jeunes chrétiens et qu'on les regarde comme ça pendant, avec des caméras pendant qu'ils sont en train de prier, de faire des études de bibliques sans montrer leur vie intime. On entendrait des cris d'expériences déshumanisantes, de cobayes aux mains des sectes. Mais là, des vies qui sont le jouet de millions de francs, de l'argent, et tout le monde dit c'est la société, c'est l'évolution. Nous ne sommes pas loin de l'époque romaine. La décadence, le pain et les cirques. Nous avons Love Story et le foot. Mais en dépit de ce monde qui nous entoure, nous avons tous le choix de vivre pour Christ, de vivre pour Dieu. Nous pouvons dire « Il est écrit ». Nous pouvons nous baser sur la Bible. Et Dieu nous promet qu'il regarde toute la terre pour que s'affermisse ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il recherche, même par ici, est-ce qu'il y en a un seul à Calvary Chapel Nice? Dieu nous dit dans 2 Chroniques 7, 14 que c'est son peuple qui doit d'abord se repentir. Notre pays a besoin de guérison. Mais écoutez, 2 Chroniques 7, 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ce n'est pas en criant après Jospin, M6, ou les grandes compagnies internationales, Hollywood. Si mon peuple, c'est-à-dire nous, qui est invoqué mon nom, nous le disons chrétien. Si nous nous humilions, si nous prions, si nous recherchons la face de Dieu, si nous nous repentons de nos péchés, alors nous avons cette promesse, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je crois que l'Église doit cesser de montrer les autres et de dire que c'est une immoralité incroyable. L'Église doit se repentir de sa tiédeur, de son manque de souci des autres, de son manque de foi. Du fait qu'il ne croit pas vraiment que tous ces gens sont perdus. C'est à nous que ces choses appartiennent. C'est à moi de commencer. Et donc, Jésus, pour triompher de cette terrible épreuve de la tentation par Satan, il n'avait pas commencé à discuter, en parlant de vérité le concernant. Il aurait pu dire, mais tu ne sais pas à qui tu parles, je suis le Fils de Dieu. Tu as entendu parler qu'à lors de mon baptême, les cieux se sont ouverts une fois, c'était entendre. Il a pris une seule arme. La parole de Dieu. Il a dit, il est écrit. Et la parole de Dieu, la Bible, elle ne sert pas seulement à définir une doctrine. Elle nous donne la vie. Par l'Esprit de Dieu. Il compare, pas plus que notre corps sans la nourriture ne peut vivre, notre esprit ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, Jésus ne l'a pas utilisée pour faire taire le diable, mais d'abord pour se fortifier lui-même. Après quelques coups, le diable est parti. Pour savoir vraiment connaître la parole de Dieu, il faut être comme un homme qui veut vraiment connaître le pain. C'est pas le diététicien chimiste qui connaît le pain. Amen. Il connaît peut-être les formules des composantes chimiques. Mais c'est l'homme qui a faim qui va faire l'expérience du pain. Pour connaître la parole de Dieu, nous devons laisser l'Esprit nous donner cette faim de vérité. Nous devons réaliser que tout autour de nous, ce n'est que apparence et mensonge. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, verset 4, et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. On voit. On voit là l'extraordinaire soin de Dieu pour ses enfants. Leurs vêtements ne se sont pas usés. Comme quelqu'un le faisait remarquer, peut-être qu'ils n'étaient plus tellement à la mode après 40 ans. Mais Dieu avait pris soin de ce qu'il faisait les vêtements qui parce qu'il ne pouvait pas les fabriquer ou les trouver ailleurs. Donc ces vêtements devaient durer. Dieu s'en était assuré. Il y avait un célèbre classique avec Alec Guinness, l'homme au complet blanc. Qui était l'histoire d'un chimiste qui avait trouvé un vêtement qui ne s'usait plus et il était poursuivi par tous les compagnies de vêtements de la terre. Ça n'a aucun rapport avec l'histoire du chimiste. Ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 ans. Mais bon. Intéressant. Mais quand on voit la médecine moderne, dit que la malnutrition, un des signes, c'est les pieds qui enflent. C'est vrai ça? Donc, cette petite remarque nous montre que la manne était parfaite pour le peuple d'Israël. Ça nous rappelle que la manne spirituelle, Jésus et sa parole, son Esprit Saint, nourrissent complètement notre âme. Moïse leur avait parlé du passé. Maintenant, verset 5, il leur parle du présent. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. Le mot traduit ici par éduquer est repris par d'autres versions par le mot de châtier, de corriger, de reprendre. Il y a un passage que j'aimerais qu'on lise ensemble dans Hébreux 12. Hébreux 12, à partir du verset 5. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient, que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être triste, au premier abord, un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Et donc, cette idée que le châtiment de Dieu, c'est une preuve de son amour aussi. Je ne vais pas corriger les enfants des voisins d'en face. Parce que des fois, j'aurais bien envie, mais ce ne sont pas mes enfants. Par contre, Tony et Sébastien, s'ils font des bêtises, c'est à moi qu'appartient la responsabilité de les châtier. Encore une fois, pas pour les détruire, mais pour les faire grandir. Pas seulement en centimètres, ça marche. Mais moralement, en caractère. Et c'est vrai que la correction, elle n'est jamais plaisante en elle-même. C'est le fruit qui la rend valable. Tu observeras le futur maintenant, les commandements que l'Éternel, ton Dieu, verset 6, ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources, de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Verset 8, pays de froment, d'orge et de vigne, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu extrairas le bronze. L'abondance, sous toutes ses formes. Lorsque tu mangeras et que tu te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Verset. Ces promesses de prospérité et d'abondance sont ici des promesses physiques pour Israël. Et elles sont faites ici à Israël, pas aux chrétiens. Dieu a promis des bénédictions spirituelles aux croyants. Éphésiens 1:3 nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Il ne nous a pas promis des bénédictions matérielles. Il se peut qu'il nous bénisse ainsi. Mais on ne peut pas les revendiquer, ces bénédictions physiques. Par contre, nous pouvons revendiquer, nous pouvons demander sur la base de ces promesses, ces bénédictions spirituelles. Une chose importante, c'est de remercier le Seigneur. Au lieu d'aller le voir lorsque les choses vont mal, passez-lui un coup de fil lorsque les choses vont bien. Un pasteur suggérait d'ailleurs que on a l'habitude de remercier le Seigneur avant le repas. C'est bien, c'est un acte de foi. Mais on peut aussi, tout aussi bien, le remercier après le repas. Lorsqu'on a mangé, qu'on est rassasié, on peut bénir l'Éternel. Peut-être je vous le suggère pour peut-être casser un peu la routine qui peut s'instaurer lorsqu'on prie machinalement avant le repas. Mais ce que Moïse veut leur faire comprendre, versets 11 à 14, c'est le danger de la prospérité. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, et que tout ce qui est à toi se multipliera, prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Le danger de penser que les bonnes choses, c'est à nous-mêmes que nous les devons. On dit, oui, mais j'ai un bon métier parce que j'ai travaillé dur. J'ai réussi dans mes études. Qui vous a permis de travailler dur? Qui vous a permis d'avoir l'intelligence pour réussir ces examens? Croire que votre succès est dû à vous-même. Dieu ne peut pas le laisser passer. Dieu doit nous reprendre. Le danger, c'est que si les pieds n'enflent pas, la tête peut enfler. Une histoire d'un pasteur qui, après le culte, une petite dame venait lui dire « Oh, pasteur, votre sermon était absolument merveilleux. » À mon avis, vous êtes vraiment un des grands prédicateurs de notre époque. Je le remercie humblement. Et puis quand il repart avec sa femme chez eux, il lui dit, tu sais ce que m'a dit Madame Untel? Et donc il lui dit qu'elle avait trouvé que c'était un des grands prédicateurs. Et sa femme ne répond rien. Au milieu de l'après-midi, il revient encore et dit, à ton avis, il y a combien de grands prédicateurs à notre époque? Elle dit, je ne sais pas exactement, mais une chose est sûre, il y en a un de moins que tu ne penses. Ça, je peux te le garantir. Le danger de l'orgueil. Il est facile de fixer les yeux sur les cadeaux, d'oublier celui qui les offre. Les enfants sont fameux pour ça. Un auteur a dit, on se prélasse dans le cours d'eau au lieu de regarder de trouver la source. Et donc, Moïse va rappeler, verset 15, leur traversée du désert, verset 16. Il leur rappelle que, verset 17 encore, de se garder d'oublier, de dire, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Et le danger, c'est que si on oublie le Seigneur, on va se mettre à adorer d'autres dieux. Si c'est le cas, alors, il nous assure que nous allons périr. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Verset 20. Et c'est triste aujourd'hui de voir des chrétiens oublier le Seigneur parce qu'ils ont trop de jouets. Ils ont trop de prospérité. On dit que un enfant de 5 ans dans les années 50, c'est une statistique américaine, avait 17 jouets. Mais je crois que ça se compare à l'Europe. Puisque maintenant on a Toys R Us. Le même enfant de 5 ans dans les années 90, aux États-Unis du moins, c'est 243 jouets. À ses enfants. Mais nous, combien on avait de postes de radio dans les années 50? Un seul. On se réunissait autour du poste de radio. Maintenant, s'il fallait compter entre les Walkman, les vidéos, les télés, les MP3, on peut être complètement submergé par toutes ces choses, ces objets physiques, qui deviennent des idoles. Et la question, c'est de savoir est-ce que je fais moins aujourd'hui pour le Seigneur que je ne faisais il y a 5 ans, il y a un an ? Peut-être vous dites, oui, mais j'ai des responsabilités nouvelles au travail, je suis passé directeur. Et je travaille dur, je fais de mon mieux pour aider ma famille. Dans la vie chrétienne, il ne peut pas y avoir de statu quo. Parce qu'on est face à un courant de pollution qui nous entraîne loin du Seigneur. On ne peut pas faire la planche sur le Niagara. Il faut crawler vers l'avant, de tout son être. Si vous laissez les choses telles qu'elles sont, alors vous allez reculer. Les choses du Seigneur vont diminuer dans votre vie. Vous allez périr. Le chapitre 9, Moïse rappelle les échecs d'Israël. Il leur rappelle leur peur des géants, verset 2. Mais il leur dit, reconnais aujourd'hui que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui va faire le travail. Comme un feu dévorant, c'est lui qui va détruire ces peuples qu'ils doivent vaincre. Et c'est Dieu qui va faire le travail. Verset 4, verset 5 et verset 6, il leur dit une chose qui est fondamentale. Une chose qui est fondamentale pour votre vie de chrétien. Il leur dit, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Verset 5, il répète, verset 6, il répète la même chose. C'est pas parce qu'ils sont un peuple spécial. C'est pas parce qu'ils sont tellement beaux moralement devant Dieu. Pour nous, c'est pas parce que nous sommes des gens spéciaux. Parce que nous sommes des bons voisins. Nous payons bien nos impôts. Nous ne disons pas de gros mots. C'est pas pour ça que Dieu nous accepte. Il est dit ici que c'est parce qu'ils sont un peuple méchant. C'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les dépossède devant soi, verset 4. Reconnaître que c'est la grâce de Dieu. Dieu a un objectif. Détruire ses ennemis. Et c'est lui qui va les détruire devant le peuple d'Israël. Et nous, il veut nous faire réaliser qu'il veut nous utiliser au sein de l'Assemblée, dans la ville, dans le pays. Mais encore une fois, ce n'est pas à cause de notre justice, notre stature morale devant Dieu. Ce n'est pas ma perfection qui l'impressionne. C'est à cause de ses desseins souverains. Ça, c'est fondamental. Il y a beaucoup d'églises chrétiennes où il y a une fausse conception de Dieu et de sa grâce. Les gens disent, on n'a pas des nouvelles âmes parce qu'on ne paye pas le prix. Ça, c'est très, très prévalent. Si vous écoutez un peu ce que les gens disent, il faut jeûner. Il faut prier des nuits entières. Il faut payer le prix. Et l'implication, c'est qu'une fois qu'on aura fait tout ça, alors Dieu sera forcé de nous payer. Dieu sera obligé d'agir. Il est question de compter le coût. Dans Luc 14, 28, si on veut bâtir une tour, il faut d'abord s'asseoir pour calculer la dépense et voir si on a de quoi la terminer. Autrement dit, quand on compte le prix, c'est pour voir, c'est une question d'engagement. Si je dis je vais aider à installer le matériel à l'église tous les dimanches, ça veut dire que je m'engage à être là à l'heure tous les dimanches. Pendant les vacances ou si j'ai un empêchement, je m'assure de trouver quelqu'un pour me remplacer. Mais encore une fois, croire qu'on peut forcer Dieu par notre jeûne, nos prières, notre générosité, à faire quoi que ce soit, c'est n'avoir rien compris à la grâce de Dieu. La prière, le jeûne sont des choses formidables. Et pour nous recueillir devant le Seigneur. Pour couper les interruptions, tout ce qui nous distrait de sa présence. Nous savons que Dieu répond à nos prières. Nous n'ayons jamais l'impression qu'on peut l'obliger à quoi que ce soit. Il y a des promesses, il est vrai. Si nous remplissons les conditions, nous savons, c'est un fait accompli. Mais reconnaissons que ce n'est pas à cause de notre justice que Dieu fait quoi que ce soit. N'oublions jamais sa grâce dans toutes nos interventions avec lui, dans toutes nos interactions, pardon. Le reste du chapitre, Moïse rappelle leurs échecs, il évoque le veau d'or, la colère qui s'était emparée de Moïse. Moïse qui avait prié pendant 40 jours, 40 nuits. L'Éternel qui lui avait dit, c'est un peuple à la nuque raide. Verset 14 du chapitre 9, il y avait Un verset intéressant, c'est Dieu qui parle à Moïse et qui lui dit « Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous des cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. » Et ça, ça pouvait représenter une grande tentation pour Moïse. Dieu disait « J'en ai assez de ces gens. » Le truc que j'avais promis à Abraham, ça ne marche pas. Je recommence avec toi. Et on sait que Moïse n'a pas marché pour ça, au contraire, il a prié pour son peuple. Il a intercédé. Ça nous rappelle, il y a un parallèle avec Jésus qui est tenté pendant 40 jours dans le désert. Jésus lui est tenté par le diable. Satan nous tente, Dieu nous teste. Un pasteur, John Corson, que j'aime bien citer, dit « Quand vous êtes tenté par Dieu, quand vous êtes tenté par Satan, Dieu va utiliser ce que Satan agite devant vous comme un test. » Quand vous êtes testé par Dieu, Satan va l'utiliser pour vous tenter. Ce qui est intéressant, c'est qu'en grec, il n'y a qu'un seul et même mot pour désigner le mot « tenter » ou « tester », « mettre à l'épreuve ». Il teste, c'est toujours pour réussir. La tentation, c'est pour détruire. Jacques disait que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne ». Jacques 1:13. Et Paul, dans 1 Corinthiens 10:13, dit que aucune tentation, aucune épreuve n'a été humaine. Dieu est fidèle et ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et avec la tentation, il donne l'antidote, il donne le moyen de s'en sortir pour que nous puissions supporter la tentation. 1 Corinthiens 10, 13. Par la suite, Moïse rappelle comment il avait brisé les tables de la loi. Comment il avait brûlé le veau d'or. Verset 22, il parle des échecs de Tabéra, dont il est question dans Nombre 11. Les gens murmuraient, il n'est même pas dit la raison pour laquelle ils murmuraient. Et ça nous ressemble. On se plaint, on ne saurait plus pourquoi on se plaignait, mais on sait qu'on n'était pas content. À Massa, où ils avaient manqué d'eau, les deux fois. Et puis à ce fameux endroit de Kibroth Hattahava. Les tombes de la convoitise. Lust. Ils en avaient ras-le-bol de la manne. Ils voulaient des cailles, ils voulaient de la viande. Dieu leur a envoyé des cailles jusqu'à ce qu'elles sortent par le trou de nez. Et puis lorsqu'ils sont arrivés à la frontière de la terre promise, verset 23, « Vous n'avez pas cru en lui, vous n'avez pas obéi à sa voix. » Verset 23, bien. Brûle. Mm-hmm. Croire et obéir. Il y a un très beau chant en anglais qui s'appelle Trust and Obey. Les deux vont ensemble. Si on ne croit pas, on ne va pas obéir. Et si on n'obéit pas, on a intérêt à ne pas croire. Rébellion, murmure, ça c'est le preuve de manque de foi. Verset 24, vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais.